Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit: Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait: Nous le pouvons. Il répond: La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi,
dans notre marche vers la compréhension totale et plénière de l'Évangile qui progresse petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons dans cet Évangile de saint Marc, avec les apôtres, une fois encore, nous achoppons, comme bien souvent dans notre vie, sur le message évangélique. Cette troisième, comment comprendre qu'au centre de toutes nos églises, au centre de toutes nos maisons, au centre de toutes nos vies, il y ait la croix et que cette croix puisse rayonner de lumière. Et l'autre jour, on revisitait des chants il y a quelque temps, d'il y a une trentaine d'années, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Je ne sais pas ce que Jésus aurait dit avec cet évangile qui vient de dire sur ce chant. De quoi s'agit-il? Et c'est difficile pour nous d'aller au centre. Bien sûr, nous rêvons tous que d'une foi flamboyante, et ainsi, mais un saint François nous rappelle que j'aurais beau prêcher de toutes les manières et qu'en allant dans la ville voisine, Noyon en l'occurrence, et que là tout le monde se convertisse, est-ce cela la joie parfaite, frère Léon? Non, ce n'est pas ça la joie parfaite. Ce n'est pas à partir de ce moment-là où l'Évangile vient habiter ton cœur, mais quand tu vas rentrer chez toi dans ton monastère alors qu'il fait froid, qu'il y a de la neige, du vent, etc., et que tu arrives et qu'on te considère comme un étranger, qu'on ne te reconnaisse pas, et que ton cœur reste dans la paix et appelle la paix, alors là est la joie parfaite. Ici, cette troisième, à chaque annonce de l'évangile, de la passion, pardon, dans l'évangile, il y a ce refus hein, ce refus qui nous est à nous tous, presque congénital, j'allais dire, qui tient en nous de ce message de Jésus, de cette manière dont Jésus vient nous transformer. Et ici, cela se focalise sur un thème qui, dans nos vies, à tous les niveaux, non seulement à ceux qui ont le pouvoir, mais à tous les niveaux, eh bien, se retrouve cet esprit de domination, de pouvoir. Et comme antidote, le Seigneur nous donne, eh bien, le service, se mettre au service de la construction de l'autre. Et non seulement selon mes vues, mais aussi selon ses vues, ensemble, comme un seul corps, comme va nous le rappeler un saint Paul constamment. Et dans ce chemin, nous sommes guidés aussi aujourd'hui par cette première lecture qui, combien choquante est-elle et combien difficile nous pouvons la comprendre, ce serviteur souffrant, broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Là, il y a un effet de traduction qui arrange pour ne pas nous choquer. D'habitude, c'est plus violent. Bien, où on laisse cette vision de... C'est dans l'ordre, entre guillemets. Dieu a voulu briser son serviteur par la souffrance. Non pas que ce soit une volonté comme la nôtre qui veut se faire puissante, mais Dieu assume la vie où nous sommes. Et il vient nous rencontrer là où nous sommes. Et c'est le premier point qui est important de comprendre. Que nous qui sommes dans la souffrance, dans l'impuissance, dans les difficultés de la vie, que ce soit par rapport de santé, que ce soit moral, que ce soit spirituel, le Seigneur vient nous rejoindre et il est avec nous. Et c'est le premier point qui parcourt toute la Bible. C'est le premier point qui change, eh bien, la vision de la religion de la Bible avec toutes les autres religions. C'est que, alors que les autres pensent que le Seigneur est le garant de l'ordre qu'il faut, pour nous ça c'est le Dieu de Voltaire, c'est le Dieu des Égyptiens, c'est les idoles qu'il faut abattre, nous faisons cette découverte qu'en se mettant à l'écoute, en laissant jaillir le cri de notre cœur, et non pas s'arrêter dans avoir soi-même pour fondement et notre industrie et notre astuce pour nous en sortir, qu'en allant au fond de notre cœur, nous découvrons cette présence du Seigneur qui est avec nous, qui se fait présent, et pour nous libérer. Et comment va venir cette libération? Elle nous est montrée, c'est le deuxième point, par ce serviteur. Qu'est-ce qu'il fait? S'il fait de sa vie, ici on a la traduction aujourd'hui qui n'est pas non plus très extraordinaire, un sacrifice d'expiation, parce qu'on ne comprend plus ce texte, ce terme, eh bien il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Voilà comment nous sommes appelés à répondre au mal, à répondre à la souffrance, à répondre à la difficulté, non pas en faisant des théories, en voulant tout expliquer, mais il va prendre sa vie, comme le dit le livre du Lévitique au chapitre 5, pour expliquer ce genre de sacrifice dont on parle, il va prendre sa vie en responsabilité. Il ne va pas disparaître, il ne va pas se laisser dissoudre devant la difficulté, mais il va répondre présent. Et c'est le mystère de Jésus dans sa croix. C'est le mystère de Jésus par rapport au mal, par rapport au rejet que nous faisons du royaume et de cette communion à laquelle nous sommes appelés, que nous désirons tous tellement, mais que nous brisons tous si souvent. Et le Seigneur, il rentre dans son chemin comme grand prêtre, lui qui connaît notre faiblesse, comme on vient de lire dans l'Épître aux Hébreux, lui qui est adapté parce qu'il nous connaît bien, il a pris ce chemin pour s'offrir, pour devenir, pour continuer à être le Fils du Père, pour continuer à être ce Messie qui est envoyé, pour continuer à être dans cette douceur, dans cette paix, dans ce désir de communion, de cet amour, de ce projet de Dieu qui est de nous aimer et non pas de réagir par rapport à notre mal, à ce que nous faisons. Et ainsi, il peut continuer à lui qui a enseigné le pardon, eh bien, à le donner. Lui qui a enseigné cette communion alors que tout le monde est parti, il vient nous donner cette relation qui reste, celle avec sa mère qui est là debout, qui communie à ses souffrances, il vient nous la donner pour que nous puissions, eh bien, comme reprendre ce fil de la communion à partir de Marie. Et vous entendez bien ce texte ici, ce dont il nous parle. Si tu restes dans cette attitude, qui est l'attitude chrétienne fondamentale, vous avez la définition du sacerdoce royal des baptisés, c'est-à-dire notre vocation de baptiser, dans saint Paul, à l'épître aux Romains, « Offrez vos corps en sacrifice d'agréable odeur à Dieu, en sacrifice vivant. » Eh bien, c'est exactement ce que nous avons ici de faire de notre vie. Au lieu de nous laisser, eh bien, emporter comme la balle par le vent, par le mal et par la colère et par le pouvoir et par la jouissance pour soi, etc., eh bien, à nous de prendre cette vie entre nos mains et d'en faire quelque chose, de l'offrir au Seigneur, de répondre, d'être un sujet, même si c'est quelque chose de tout petit, même si c'est au moment de notre mort, mais au lieu de nous laisser ravir notre vie par la mort, eh bien nous pouvons l'offrir en acte d'amour, nous pouvons lui donner une fécondité. Et c'est cela que le Seigneur nous engage. Et tout de suite, vous voyez, le texte d'Isaïe, même s'il n'en a pas le vocabulaire, il en a la réalité. Il verra sa postérité, sa descendance. Il verra de longs jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. Déjà est la résurrection. La résurrection, elle jaillit de cet acte d'offrande de Jésus. La résurrection, la puissance de la résurrection, elle jaillit de notre capacité de prendre notre vie en responsabilité et de l'offrir et d'en faire quelque chose de beau. Non pas parce que nous réussirons, mais parce qu'on ne se laissera pas voler ce que nous sommes profondément, mais nous pourrons l'offrir au Seigneur. Et la suite de ce texte d'Isaïe n'est pas simplement donc cette présence de Dieu qui nous rejoint dans notre souffrance, pas simplement cette présence de Dieu qui donne du sens et qui nous permet de nous relever face au mal et d'affirmer, eh bien, cette bonté du Seigneur et d'y participer, mais c'est aussi cette fécondité qui est donnée. Il verra la lumière, il sera comblé et il justifiera la multitude. Et c'est cet amour, c'est cette vision, de cet amour de la passion de Jésus et de sa résurrection que nous sommes appelés à laisser briller dans nos vies. Parce que nous nous laisserons transformer par cet amour du Seigneur, parce que nous rentrons, comme le célèbre l'Eucharistie, dans ce mouvement de don de nous-mêmes, hein, où nous acceptons que ce désir de communion, que cette communion soit plus forte, que nos efforts pour la communion soient plus forts que tout ce qu'il a détruit, et parce que nous apprenons à y travailler ensemble. Eh bien, demandons au Seigneur que cette pédagogie de notre humanité, que cette pédagogie de la résurrection soit notre vie et que nous puissions en témoigner d'une manière forte, d'une manière évidente, comme le rappelait le pape dans son homélie à la clôture du congrès eucharistique d'Italie à Vérone, que nous puissions en témoigner avec force dans le quotidien, d'une manière capillaire, d'une manière qui va remplir partout, parce que tout le monde a tellement besoin de sortir de la désespérance, de sortir de l'irresponsabilité face au monde dont on a l'impression qu'il marche tout seul, mais que si déjà nous commençons à nous relever là où nous sommes et à apprendre à aimer, alors la joie parfaite, même si nous rentrons avec Jésus dans le rejet, mais la joie parfaite n'est pas loin. Et la résurrection du Seigneur pourra toucher un grand nombre. Amen.